Merci d'être fidèle à RFI. Il est 3h à Paris, 1h temps universel.
Mathis Limano.
La proposition de cesser le feu ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien. Réponse du Hamas à la proposition américaine acceptée par Israël. Ce jeudi, 54 personnes sont mortes dans les bombardements à Gaza. Oui à des discussions, mais nous voulons connaître vos conditions à l'avance. Voilà, en somme, la réponse de Kiev à Moscou qui propose de reprendre les négociations de paix. Le Kremlin donne rendez-vous ce lundi à Istanbul. On sera aussi au Mozambique dans ce journal où les attaques de l'État islamique se multiplient dans la région du Cabo Delgado. Et puis, c'est une page qui se tourne chez Dior. La directrice artistique de la maison de luxe quitte ses fonctions après 9 années de bons et loyaux services. L'Ukraine dit oui à de nouvelles négociations directes lundi à Istanbul, mais veut connaître à l'avance les conditions du mémorandum préparé par la Russie et exhorte Moscou à une discussion constructive. En attendant, les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump continuent de se tendre. Le président américain est en surcharge émotionnelle d'après le Kremlin, après qu'il ait traité Vladimir Poutine de fou, accusant son homologue russe de jouer avec le feu. Donald Trump qui s'impatiente, lui, qui avait promis de régler le conflit en 24 heures. Mais pour le spécialiste Cyril Brett, cette passe d'armes entre les deux dirigeants sera oubliée dès la première poignée de main.
La Russie, par ce type de réponse, qui paraît ironique, montre à Donald Trump qu'elle fait bien la part entre la rodomontade destinée à l'impressionner et le fond du dossier. Les deux leaders vont finir par se rencontrer et quand ils se rencontreront, eh bien, toutes les rumeurs ou toutes les expressions indirectes s'effaceront devant ce qu'ils concluront. N'oublions pas, dans l'art du deal de Donald Trump, il y a évidemment le bruit et la fureur, la confusion instillée volontairement et la Russie a voulu bien signifier qu'il n'était pas dupe de cette expression du président américain sur X.
Et pendant ce temps, Moscou continue de grappiller du terrain et revendique la prise de 3 villages dans les régions de Kharkiv et Donetsk. La bannière étoilée flotte à nouveau au-dessus de l'ambassade américaine à Damas. Elle a rouvert hier jeudi après 13 ans d'absence diplomatique sous le régime Assad. À cette occasion, l'émissaire des États-Unis est en visite dans la capitale syrienne où il a signé avec les autorités des contrats de fourniture d'électricité pour 7 milliards de dollars, de quoi alimenter sur le long terme 50% des besoins du pays. Les nouvelles autorités, impatientes de réhabiliter la Syrie sur le plan international, auraient entrepris, selon l'agence Reuters, des pourparlers secrets avec Israël, pays avec lequel elle est techniquement en guerre depuis près de 80 ans. Abla Jonaïdi.
Israël et la Syrie seraient en contact direct pour prévenir les conflits à leurs frontières, selon Reuters, qui en a eu confirmation par 5 sources variées. Depuis la chute de Bachar al-Assad, l'armée israélienne a multiplié les incursions terrestres et les raids visant à diminuer les capacités militaires de Damas, dont elle craint les intentions des nouveaux dirigeants. Thomas Barak, le nouvel émissaire, tout juste nommé par Donald Trump, était à Damas hier. Il a appelé à un accord de non-agression entre la Syrie et Israël dans des propos rapportés par la chaîne Al Arabiya. De son côté, le gouvernement syrien multiplie les gestes de bonne volonté, rencontrant des représentants de la communauté juive, arrêtant 2 hauts responsables du djihad islamique palestinien, co-auteurs de l'attaque du 7 octobre. Depuis quelques semaines, les bombardements israéliens sur la Syrie ont diminué. Sans parler de normalisation avec le voisin, Ahmed al-Sharaa, le président syrien par intérim, a reconnu que des entretiens indirects avaient bien cours. Après sa rencontre avec le président syrien, Donald Trump a levé les sanctions économiques pesant sur la Syrie. Il a estimé que le dirigeant syrien était disposé à normaliser à terme ses relations avec Israël, mais que cela prendrait du temps.
L'armée israélienne ne fait pas de commentaires après l'évacuation forcée d'un hôpital à Gaza, l'établissement Al-Aouda, dernier encore en service dans le nord de l'enclave. Par ailleurs, le Hamas rejette la proposition de trêve des États-Unis. Elle avait été acceptée par Israël, mais le mouvement palestinien estime qu'elle ne répond à aucune des demandes du peuple palestinien, à savoir l'arrêt de la guerre et de la famine. Ce jeudi, 54 personnes sont mortes dans des bombardements d'après la défense civile. L'armée israélienne qui frappe aussi le sud du Liban, 2 hommes présentés comme des membres du Hezbollah ont été tués dans la région de Nabatieh. L'armée israélienne continue de viser régulièrement des cibles qu'elle considère comme appartenant à la milice libanaise, et ce malgré le cessez-le-feu conclu il y a 6 mois entre les deux belligérants. 23h05 à Paris et à Maputo, le nord du Mozambique, sous la pression des terroristes de l'État islamique. Sur ses réseaux sociaux, le groupe djihadiste a revendiqué deux attaques perpétrées au cours de la semaine contre des militaires mozambiquais. Ça s'est passé dans la région septentrionale du Cabo Delgado. Le bilan s'élève à une trentaine de victimes chez les soldats. Une attaque de plus, Gaël Lalex, alors que les incursions de l'État islamique se sont récemment multipliées.
Sur leurs réseaux sociaux, les terroristes arborent fièrement leur butin. Des mitraillettes, des mortiers, des munitions, des lampes solaires, toute une armurerie. Mardi, les djihadistes ont attaqué un campement militaire à Macomia, à près de 200 km au nord de Pemba, capitale du Cabo Delgado. Ils revendiquent la mort d'une dizaine de soldats. Cet assaut intervient peu après l'attaque d'un avant-poste militaire à Mouidoumbe, où 11 soldats ont également péri. Les autorités mozambicaines, quant à elles, ne communiquent pas sur ces récents revers. La situation s'est nettement dégradée dans le Cabo Delgado depuis le début du mois et l'annonce par Total de la reprise de ses projets pétroliers. Les hommes armés ont mené une attaque dans la réserve de Niassa, tuant 2 rangers. 3 soldats rwandais ont également péri dans une embuscade peu après. Dans un rapport publié cette semaine, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies s'inquiète de voir l'insécurité toucher des districts autrefois considérés stables. Ceux d'Ankouabé et de Montepuech ont enregistré 20 000 déplacés supplémentaires en quelques semaines. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Un nouveau rebondissement dans le feuilleton de la guerre commerciale de Donald Trump. Les droits de douane maintenus temporairement par la justice américaine, et ce, moins de 24 heures après avoir été bloqués en première instance. Une décision qualifiée d'horrible et de trop politique par Donald Trump. Les surtaxes du président américain sont donc finalement maintenues par une cour d'appel. Le temps, disent les magistrats, de se prononcer sur le fond du dossier. Une deuxième province canadienne déclare l'état d'urgence face aux incendies dévastateurs. La province du Saskatchewan, qui emboîte le pas à celle du Manitoba. Dans cette dernière province particulièrement touchée, 17 000 habitants sont en cours d'évacuation. Les avions de l'armée ont été dépêchés en soutien aux pompiers. Coup de théâtre en Argentine. Le procès sur la mort de Diego Maradona a été déclaré nul et devra reprendre à zéro. L'ensemble de la procédure a été annulée après la mise à l'écart de l'une des 3 juges. Son impartialité avait été mise en cause après la découverte de sa participation au tournage d'un documentaire sur le procès. C'est une page qui se tourne dans le monde du luxe. La créatrice italienne Maria Grazia Chiuri quitte ses fonctions de directrice artistique des collections femmes de chez Dior. Elle a été la première femme à occuper ce poste dans la célèbre maison parisienne. Elle y est restée 9 ans, fait plutôt rare dans le monde de la mode, où la plupart n'occupent ce prestigieux poste que quelques années, Edmond Sadaka.
En 9 ans, Maria Grazia Chiuri a réussi à imposer sa marque et sa vision de la femme Dior. Très vite, c'est la dimension féministe qui a occupé une place centrale dans son travail, dès son premier défilé d'ailleurs, en 2016. À l'époque, elle avait envoyé sur le podium des t-shirts arborant en lettres noires le message suivant: « Nous devrions tous être féministes », référence à l'essai du même nom de l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Par la suite, la styliste n'a cessé de réaffirmer ce message en ne sollicitant par exemple pour enrichir ses collections que des femmes ou en ne confiant chaque décor de défilé qu'à une artiste féminine. Le bruit de son départ courait depuis plusieurs mois. Certains lui ont reproché son manque de créativité. Elle a toujours revendiqué une approche rationnelle du vêtement, la priorité étant selon elle qu'il soit facile à porter et confortable. Mardi dernier, la créatrice avait présenté à Rome, sa ville natale, sa dernière collection lors d'un défilé dans les jardins de la Villa Albani, un palais néoclassique. Événement spectaculaire qui s'est conclu sous les applaudissements nourris des invités.
Et le départ de Maria Grazia Chiuri laisse la porte ouverte au couturier irlandais Jonathan Anderson, dont le nom revient avec insistance pour lui succéder, bien que rien n'ait été officialisé à ce stade. Fin de parcours à Roland-Garros pour Gaël Monfils. Le Français s'est incliné au deuxième tour face au Britannique et cinquième mondial Jack Draper. Ça passe en revanche pour Novak Djokovic après son succès en 3-7 sur Corentin Moutet. Qualification facile également pour Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, a sorti Richard Gasquet, le Biterrois, à qui le public a rendu un vibrant hommage. Il jouait en effet le dernier match de sa carrière après plus de 1000 rencontres et 22 participations au tournoi de la capitale. Et puis le FC Metz retrouve la Ligue 1 un an après l'avoir quitté. Les Messins ont mis un coup sur la tête au stade de Reims lors du barrage retour. Victoire 3-1 au bout des prolongations. Les Rémois descendent donc en Ligue 2. Il est 3h10 à Paris. Merci. d'écouter RFI. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.